destiny. I need to disagree. Radio Bus, bel après-midi.
Bel après-midi. Il est 14h.
Il est 14h.
Radio Bus. Radio. Une fréquence classe.
Une fréquence classe.
Une fréquence classe.
Petite émission créée et animée par quelques enseignants de Lutry qui ont décidé de relever le défi de monter à nouveau une émission dans le radiobus.
Il est à souligner que l'émission est entièrement réalisée par des enseignants.
Les Lutricodeurs, avec la présence aujourd'hui, elle a brillé sur les planches de la revue de Lutry pendant de longues années déjà, Nicole Mottier.
Oui, oui.
Notre petite Benjamine, elle a toujours un mot gentil pour chacun et elle a été élève de plusieurs d'entre nous, Mélissa Rocha.
Ouais.
Elle a toujours le sourire et est particulièrement lumineuse, Elodie Sédou.
Ouais.
C'est notre spécialiste technique, un vrai scientifique, chef de file maths physique, Ivan Marsikic. Mon parfait alter ego radio, et c'est à lui que nous devons le montage de quelques rubriques préenregistrées, Thierry Viguer.
Titi.
Notre grand Almouti, ceux qui parmi nous ont fait un camp de ski avec lui verront de qui je parle, Vincent Timmerman. Sans oublier notre flamboyante et enthousiaste Laurence Birbaum.
Merci Catherine pour cette présentation. Nous avons l'insigne honneur d'accueillir comme invité notre directeur, monsieur Jean-Daniel Conus.
Oui, bravo. Bonjour monsieur.
Bienvenue. Bonjour tout le monde, je vous remercie de cette invitation et surtout je vous remercie de me laisser participer au groupe projet qui est Radobus.
Merci de nous accorder le temps de cette émission, alors que cela fait 3 ans que vous avez pris vos fonctions dans l'établissement primaire et secondaire de Lutry et que les fins d'année sont toujours très chargées, particulièrement pour un directeur d'école.
Le radiobus fait halte à Lutry durant toute cette semaine et normalement les émissions sont créées, animées et organisées par les élèves, mais cet après-midi nous leur volons un petit temps d'antenne.
Nous en profitons pour remercier ici Denis Badon ainsi que toute son équipe.
Oui.
Constituée de Nathalie Carlen qui a beaucoup travaillé sur nos fichiers MP3, de Frédéric Genevet.
Barzi, vas-y.
Stéphane Cutlo et Lionel Deletra.
À noter que le bus est à la Croix jusqu'à aujourd'hui et sera demain jeudi et vendredi dans la cour du collège du Grand Pont pour suivre en direct jeudi après-midi le concert de l'atelier chanson et vendredi matin la très célèbre course à travers Lutry.
Bon, maintenant intéressons-nous à notre invité. Monsieur Conus, pourquoi avez-vous décidé de revenir à Lutry après nous avoir quitté comme doyen et entre autres formateur de votre serviteur et avoir repris une direction à Isabelle de Montelieu ?
Alors, lorsque j'ai été nommé directeur, il me restait une 20aine d'années de carrière devant moi. Donc, j'ai tout de suite pensé que j'allais certainement partager ce temps en 2 établissements et pas uniquement faire 20 ans dans le même. Donc, après 8 années à Montelieu, j'ai commencé à regarder un petit peu les opportunités qui se présentaient et paf, une opportunité s'est présentée avec le poste qui était libre à Lutry. Donc, j'avais 2 semaines pour me décider. Bien que j'étais très très bien à l'aise à Lausanne, à Montelieu, ça se passait très bien. Il m'a fallu très peu de temps pour me décider. Connaissant une partie des enseignants, les autorités communales, les lieux, etc., je me suis dit qu'apparemment il y avait de tout pour bien faire à Lutry. Et j'ai donc postulé et j'ai eu la chance de revenir là. Et puis 3 ans après, je me rends compte que j'ai bien fait. Je ne regrette rien et je suis toujours persuadé qu'il y a tout pour bien faire ici.
Merci monsieur Conus.
Et déjà une petite pause musicale avec évidemment The Wall de Pink Floyd.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone.
Hey, teacher, leave them kids alone.
Notre premier jeu sera le jeu Kezako ou jeu du mot. Chaque Lutricodeur vous proposera un mot et vous fournira une définition pour chaque mot. Et ce sera à vous de trouver la bonne définition. Le premier mot que les Lutricodeurs ont tenté de définir est catafalque. Et on commence avec Laurence.
Alors, le catafalque est un ancien instrument grec utilisé pour communiquer avec les différents dieux. Il reliait le monde humain à celui de l'Olympe. Il fallait l'utiliser avec précaution, car s'il était mal joué, les dieux se mettaient en colère et la personne subissait de nombreux conflits avec ses proches. Finalement, l'instrument a fini par disparaître car il engendrait soit trop de jalousie chez ceux qui le possédaient ou provoquait trop de conflits chez ceux qui l'utilisaient de manière inappropriée.
C'est donc un instrument grec. Merci Laurence. Vincent.
Bon, alors déjà, il faut savoir que ce mot vient de l'italien catafalco. Et savez-vous ce que signifie catafalco en italien, en français ? Enfin, je veux dire, connaissez-vous la signification française du mot italien catafalco ? Eh bien, je vais vous aider un peu, car je suis polyglotte. Donc, catafalco vient du latin vulgaire catafalicum, dont j'ignore la signification exacte. Voilà. Donc, ceci étant posé, le catafalco est tout bonnement un échafaudage. Mais attention, on ne parle pas là d'un vulgaire échafaudage comme ceux posés par Krasniqi, échafaudage SARL là, à Lutry. Non, non. Non, le catafalque français est un bien sombre échafaudage. C'est un échafaudage de désespoir et de ténèbres. Un échafaudage qui mène à la mort. En effet, il s'agit d'une sorte d'estrade sur laquelle on place un coffre, généralement de bois, contenant un être humain décédé. Un cercueil, quoi.
Merci Vincent. C'est une estrade décorée sur laquelle on place un cercueil. Élodie.
La falque, en termes marins, est un petit panneau installé sur les embarcations pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Bien que leur fonction soit principalement technique, certaines légendes maritimes leur attribuaient aussi un rôle protecteur contre les esprits de la mer, renforçant leur importance symbolique à bord. Avec le développement des catamarans, des modèles spéciaux ont été conçus pour épouser parfaitement leur forme. Ces versions adaptées ont été nommées catafalques.
Merci Elodie, c'est un panneau posé sur les catamarans. Thierry.
Alors au Moyen-Âge, lorsqu'un paysan devait payer un impôt à son seigneur, il devait s'approcher du château de ce dernier et préparer la somme d'argent due afin de défalquer celle-ci de ses impôts. Prudent, le seigneur ne recevait pas les paysans directement dans son château de peur qu'un espion puisse se glisser dans sa demeure et rapporter des informations importantes à ses ennemis. Pour remettre la somme due, le paysan utilisait une petite catapulte mise à disposition par le seigneur dans laquelle il glissait la bourse remplie de pièces sonnantes et trébuchantes. Dans la même bourse, le paysan devait glisser une pièce spéciale appelée falque, qui était personnalisée. Ainsi, le seigneur savait quel paysan avait payé son dû ou pas. Dès lors, il est facile de comprendre que la catapulte servant à envoyer au seigneur une somme d'argent accompagnée du falque, permettant de payer une partie des impôts dus, s'appelait le catafalque.
Merci Thierry, c'est une catapulte accompagnée d'une falque. Alors, Monsieur Cognus, catafalque est selon Laurence un instrument grec, selon Vincent une estrade décorée, selon Élodie un panneau posé sur un catamaran et selon Thierry une catapulte accompagnée d'une falque.
J'aurais envie de faire confiance à tout le monde.
C'est bonne réponse. Bravo.
Et non.
Oh, Vincent avait l'air particulièrement motivé. Allons-y pour sa version.
Mais c'est juste.
Le deuxième mot choisi est radicotomie. Nicole.
Il y a quelque temps, Alain, qui est en retard, se déplace trop rapidement sur sa moto. La chaussée étant mouillée, il glisse, dérape et se retrouve gisant sur l'asphalte, souffrant horriblement du dos. L'ambulance arrive peu après et emmène notre motard imprudent à l'hôpital où très vite il est pris en charge par les médecins. Le docteur Mamour, grand amateur d'opérations même inutiles, analyse la situation et déclare « Je vais pratiquer une radicotomie en sectionnant la racine nerveuse le long de sa colonne vertébrale afin que notre blessé ne souffre plus et je m'en réjouis. »
Une opération le long de la colonne vertébrale. Mélissa.
Une opération chirurgicale pour calmer les personnes trop radicales dans leurs opinions. Elle consiste à couper la partie du cerveau qui pousse à vouloir toujours avoir raison et à diviser tout le monde, même pendant un dîner tranquille. Après une radicotomie, la personne continue de parler fort, mais au moins, elle accepte parfois qu'on ne soit pas d'accord avec elle. Parfois.
Une opération chirurgicale du cerveau. Ivan.
Bah, comme tout le monde ne le sait pas, le suffixe « cotomie » veut dire l'ouverture de quelque chose. Donc l'oncotomie, c'est l'ouverture d'une tumeur pour connaître sa dangerosité. Mais on pourrait l'utiliser dans d'autres contextes un peu plus joyeux, comme « classocotomie », l'ouverture d'une nouvelle classe. Quoique je ne suis pas certain que ça soit tellement joyeux pour un directeur. Je m'égare un peu, revenons à la radicotomie, et donc un terme utilisé en géophysique, où on va forcer l'ouverture d'un passage en utilisant les ondes sonores. Vous me direz, mais à quoi ça sert? Ben, je vous rétorque, il y a environ 50 ans, on disait qu'il restait 50 ans de pétrole. Aujourd'hui, on dit qu'il reste encore 50 ans de pétrole. Pourquoi? Parce qu'il se trouve plus profond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec radicotomie? On va creuser dans la roche dure. On va utiliser le son, le mettant en résonance avec la roche pour créer un passage, une ouverture pour qu'il vienne à des profondeurs plus accessibles où on peut le joyeusement cueillir. La fameuse expression « drill baby drill » devient dorénavant « écoute bébé, écoute ».
Ouverture d'un passage par des ondes sonores dans des roches. Laurence.
Alors, dans le cadre de la psychanalyse, il s'agit d'une forme de thérapie psychologique visant à explorer et traiter certains comportements pathologiques liés à l'avarice extrême, parfois surnommée de manière humoristique « maladie du radinisme ». Cette approche cherche à comprendre les origines inconscientes de cette tendance à l'excès d'économie ou au refus de partager, souvent enracinée dans des expériences infantiles, des peurs profondes ou des mécanismes de défense psychique. La thérapie permet au fil du temps de libérer la personne de ses blocages et de rétablir un rapport plus sain à l'argent et à la générosité.
Une thérapie contre le radinisme. Alors, Monsieur Konius, radicotomie est selon Nicole une opération le long de la colonne vertébrale. Selon Mélissa, une opération chirurgicale du cerveau. Selon Ivan, l'ouverture d'un passage par des ondes sonores dans des roches. Et selon Laurence, une thérapie contre le radinisme.
Ben, j'ai trouvé la première version un petit peu barbare. La deuxième me fait rêver parce que je connais plein de gens que qu'on pourrait opérer comme ça. Mais, j'ai l'habitude de faire confiance à mon doyen administratif, alors...
Et non.
Il fallait bien que ça arrive une fois.
Exactement. C'est une opération le long de la colonne vertébrale et c'est à Nicole qu'on doit la bonne définition.
Bravo Nicole. Bravo.
Notre deuxième jeu, parenthèse du premier, est une chanson. Chaque lutricodeur va nous interpréter de manière magistrale un couplet ou un refrain de la chanson de Jacques Dutronc, Paris s'éveille, fleuron de la littérature, et il vous incombera de trouver la partie de la chanson originale la moins modifiée.
Dans le bourg, les lutriens s'éveillent et les fêtards en rythme s'égayent. La fête des vendanges se déploie, les habitants sont tous en joie. Il est 8h, sa vie s'éveille. Sa vie s'éveille.
Les enseignants sont bien rasés, les enseignantes sont bien sapées. Les copies sont bien corrigées, les crayons sont affûtés. Il est 8h, Corzy s'éveille. Corzy s'éveille.
Dans la cour, les feuilles s'entassaient, la fête des vendanges prend place. Les costumes s'admirent dans la glace, le vin enivre l'utri rêvasse. Il est 8 heures, les palmes s'éveillent.
Les banlieusards sont dans les gares et à Villette on tranche le leur. L'Utri by Night regagne l'écart, les boulangers font des batteurs. Il est 8 heures, la croix s'éveille. La croix s'éveille.
Les certifs sont imprimés, les maîtresses sont déprimées. Les jeunes se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où JD va se coucher. Il est 8 heures, grand bon s'éveille. Il est 8 heures, les enseignants veillent.
Radio Bus, la radio de toutes les générations.
Bravo à nos lutricodeurs et des applaudissements particuliers à Yann Gerber qui nous a magistralement interprété cette mélodie au piano.
Monsieur oui, Connu.
Monsieur Connu, avez-vous reconnu l'interprète du presque authentique couplet de cette chanson de Dutron?
Tout d'abord, je crois qu'on peut féliciter effectivement Yann Gerber d'avoir réussi à accompagner tout le monde. Ensuite, j'avoue que les lutricodeurs sont un petit peu bavards et j'ai pas entendu toutes les paroles d'Olcar. Mais je dirais du coup au hasard la première.
Et non.
Et non.
Il s'agit du quatrième couplet interprété par Vincent Zimmermann.
Mais oui, mais
à Villette.
Toujours raison.
Ouais. C'était à Villette, on tranche la rue. À la Villette, on tranche la rue, en fait.
J'ai peut-être été troublé par la tonalité.
Monsieur Connus, vous êtes un vrai lutrien. Depuis quand êtes-vous à Lutri? Même si nous l'avons lu un peu dans les communales, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire?
Parcours scolaire, alors ça date. Hein. Alors j'ai grandi en fait à Moudon et pas à Lutri, mais du coup j'ai fait toute mon école obligatoire à Moudon. Et élève plutôt calme et discret, j'étais pas souvent présent le mercredi après-midi. Ensuite, gymnase du Bugnon à Lausanne. Et puis voilà, on a ensuite le gymnase s'est déroulé un petit peu plus longtemps que d'habitude que prévu. Puisque lors de la première année, j'étais pas du tout persuadé que j'allais continuer. Et j'ai fait des stages et j'ai passé plusieurs semaines dans une menuiserie en pensant que ça serait mon métier. Et mes parents m'ont convaincu, on va dire comme ça, que je devais d'abord faire le gymnase. Donc j'ai recommencé la première année une deuxième fois. Et puis ensuite, je suis allé à l'école normale parce que je me suis dit, bon, ben, menuisier, non, mais alors prof de sport. Et j'ai commencé l'école normale, ce qui s'appelait comme ça aussi avec le passé, en fait. Et puis, durant la première année, rebelote. Pas tout à fait sûr de vouloir passer toute ma journée dans une salle de gym, ni dans un bus, d'ailleurs. Et j'ai dit, bon, je vais essayer d'aller faire 2-3 autres jobs et voir ce qui se passe. Et puis, j'ai profité de donner 4 mois à la patrie aussi, avant de me dire, finalement, j'ai quand même enseigné, mais peut-être pas dans les salles de gym. Du coup, j'ai recommencé l'école normale une deuxième fois, pour aller au bout cette fois. Et puis, j'ai commencé à enseigner. Et puis ensuite, j'ai fait les formations pour être enseignant secondaire. Et puis ensuite, pour être prafo. Il y a des gens autour de la table qui ont subi
un très bon prafo.
Ils foudrent. Et puis ensuite, les formations, le CAS et un DAS pour avoir le titre m'occuper d'une direction d'école. Voilà.
Merci pour ce développement de votre parcours scolaire. Revenons à notre premier jeu et donc nos définitions de mots. Définition suivante, sialorée, Vincent.
Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une feignole qui s'appelle Lucette. Lucette était une jeune youtubeuse lutrienne sans le sou, Ah non, 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 ça va pas, c'est pas cohérent. Je reprends. Donc, Lucette était une jeune youtubeuse lutrienne pétée de thunes. Voilà, c'est mieux. Un jour que Lucette vaquait à ses occupations, comme acheter des fringues sur Internet ou faire défiler des vidéos Insta sur TokTik et vice-versa, elle tomba sur une influenceuse de renom qui proposait un défi incroyable, aller se promener en forêt. Donc, comprenons-nous bien, se promener implique un déplacement de tout le corps, pas seulement des pouces, et une forêt consiste en un ensemble de végétaux, généralement à tronc ligneux, qui existe vraiment et pas juste un arrière-fond instagrammable ou bien un poster avec le tigre dans la chambre, quoi. Bref, Lucette alla se promener en forêt. Mais c'était loin et long. Oulala, qu'est-ce que c'était long et loin. Alors Lucette décida de rester s'asseoir en lisière de forêt. Elle s'assit à l'orée.
S'asseoir à l'orée, Nicole.
Une cialorée est un brûle-parfum, généralement en métal ou en porcelaine. Dans la liturgie catholique, latine et orientale, ainsi que dans la liturgie orthodoxe, il est prévu pour un usage mobile et généralement suspendu à trois chaînettes qui permettent de le balancer. Monseigneur Mamadou, lors des offices du dimanche, a pour habitude de partir de chez lui et de parcourir les 500 mètres qui l'amènent à son église en portant sa cialorée et en variant les encens afin que ses fidèles lui restent fidèles, attirés chaque semaine par de nouvelles effluves.
Cialorée veut dire un brûle-parfum. Thierry.
Alors, soyons un tout petit peu sérieux. La cialorée ou salivation est à la fois la production de la sécrétion de salive par les glandes salivaires. La salivation est permanente, mais survient de façon beaucoup plus abondante au contact des aliments ou par réflexe conditionné. La salivation est un acte réflexe, mais ayant une composante culturelle acquise. Une bonne odeur ou la vue de mon sandwich, n'est-ce pas Vincent ? Peut faire saliver. La salivation peut aussi être provoquée par des douleurs, une sensation agréable, voire un souvenir, autant que par le contact mécanique avec les aliments.
Une sécrétion de salive. Mélissa.
La cialorée est une maladie souvent associée aux voyageurs revenant d'Afrique. Elle est causée par une bactérie qui s'installe dans les intestins, entraînant une diarrhée aiguë accompagnée de fortes fièvres. Dès les premiers symptômes, il est conseillé de consulter rapidement un médecin. En raison des différences alimentaires et culturelles, notre corps non habitué aux épices et aux ingrédients spécifiques des cuisines africaines peut réagir par des troubles digestifs graves tels que des douleurs abdominales et des diarrhées fréquentes.
Diarrhées fréquentes après un voyage en Afrique du Nord. Alors, Monsieur Conus, cialorée signifie-t-il s'asseoir à l'orée, comme le dit Vincent, un brûle-parfum à la manière de Nicole, une sécrétion de salive, comme le voudrait Thierry, ou encore une diarrhée fréquente après un voyage en Afrique du Nord, comme nous l'a expliqué Mélissa.
Mélissa, ne sachant pas mentir, ça se voit tout de suite, là, ça va pas. Thierry, je l'ai observé assez longtemps pour savoir que ce qu'il raconte des fois. Déjà, quand il était étudiant comme à l'HEP, je ne comprenais pas toujours les cours, donc là, ça continue. Donc, je vais me rabattre sur la version de Nicole, je crois.
Et non !
C'était une sécrétion de salive et c'était Thierry qui avait la bonne réponse malgré tout.
Déjà étudiant, il avait le don de m'avoir à chaque fois.
Définition suivante, paraphilie. Élodie.
Les paraphilies constituent un sous-groupe socio-affectif émergent caractérisé par une profonde inclination émotionnelle, spirituelle et parfois romantique envers les individus atteints de paraplégie. Cette orientation ne saurait être réduite à un simple fétichisme. Elle implique souvent une admiration sincère pour la résilience perçue, une valorisation du dépassement de soi et une quête d'harmonie relationnelle fondée sur la complémentarité des limitations et des forces. Leur devise non officielle, deux jambes de moins, un cœur de plus. À ne pas confondre, bien sûr, avec les tétraphiles, qui ressentent une dévotion similaire envers les tétraplégiques.
Amoureux des paraplégiques.
C'est inclusif cette
édition. Ivan.
Alors, le suffixe para veut dire à côté de quelque chose. Parapente, à côté de la pente. Mais ça peut aussi s'utiliser pour les personnes. David Para, notre collègue de primaire, veut dire à côté de David. Et effectivement, dans l'histoire de David et Goliath, il y avait un troisième homme, comme dans toutes les bonnes histoires, qui était paraphile de David. Si vous parlez un peu avec David, notre collègue, vous découvrirez que tous les mâles aînés de sa famille doivent avoir le nom David, en souvenir de leur illustre mais oublié ancêtre qui se battait à côté du David. Vous avez bien compris, on a des autres paraphiles connus dans l'histoire, donc Robin, le paraphile de Batman, Tonnerre, le paraphile de Zorro, ou plus récemment, pendant la Covid, Dr. Koch, le paraphile d'Alain Berset. Et d'une certaine manière, on peut dire que tous les doyens sont des paraphiles de Jean Daniel.
Oh. Paraphilie signifie donc être le bras droit de quelqu'un. Mélissa.
La paraphilie désigne une attirance sexuelle intense et persistante pour des objets, des situations ou des comportements qui ne sont pas habituellement considérés comme normatifs. Cela peut inclure des fétichismes, des pratiques non conventionnelles ou des fantasmes spécifiques. La paraphilie n'est considérée comme problématique que lorsqu'elle entraîne des comportements compulsifs, nuisibles ou non consensuels. Imaginez-vous tomber amoureux de la photocopieuse et de vouloir l'embrasser à tout moment de la journée.
C'est donc une attirance sexuelle pour un objet. Vincent.
Non, mais pas du tout. Mais cessez avec vos définitions vulgaires et fallacieuses. Voyons, un peu de décence. Donc pour se protéger de la pluie, on utilise un parapluie. Pour se protéger d'une chute, bon alors généralement une chute assez longue et plutôt voulue, mais bon bref, on utilise un parachute. Pour se protéger du tonnerre, bon enfin de la foudre en fait, puisque le tonnerre n'est que le bruit provoqué par l'explosion de l'air sous l'effet du passage d'un intense courant électrique. Donc bref, on utilise un paratonnerre. Et donc, on utilise un paraphilie pour se protéger de philie. Mais qui est philie, me demanderez-vous, interrogateur et néanmoins chafouin. Eh bien, philie est au dromadaire ce que Philippe est au chameau. C'est une Philippe à un bosse. Ou le contraire, je sais plus.
Un Philippe à une bosse.
Non.
Alors, monsieur Cognus, paraphilie veut-il signifier amoureux dit paraplégique, comme le dit Elodie, être le bras droit de quelqu'un, comme le suggère Ivan, une Philippe à un bosse, comme l'illustre Vincent, ou une attirance sexuelle pour un objet, comme nous l'a expliqué Mélissa?
Je vais opter pour la version de Mélissa, même si la photocopieuse, j'ai plutôt envie de lui donner des coups de pied.
Et bravo! C'est une attirance sexuelle pour un objet, et c'est Mélissa qui avait la bonne réponse. Ouais.
Eh bien, je vous propose maintenant un petit intermède musical, et je pense que c'est bienvenu, les bêtises à l'école du célèbre Henri Dess.
Tagadagada, qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école,
tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école, tagadagada,
qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école, tagadagada,
qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil poil aux tresses, qui pousse des soupirs quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école, tagadagada,
qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil poil aux doigts, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises.
C'est à l'école, tagadagada,
qu'on apprend les bêtises. Y'a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte.
Zoom, 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 zoom.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil aux baskets, par ici la sortie. Zoom, zoom.
Radio Bus.
Radio Bus. Enfin une radio qui roule.
Enfin une radio qui roule.
Je vous c'était un petit clin d'œil à Nathalie. La définition suivante, martionnisme. Laurence.
Alors, le martionnisme est une sorte de révision de l'Ancien Testament, où on dit poliment à l'Ancien Testament, merci mais non merci. En gros, il rejette l'idée du Dieu vengeur de l'Ancien Testament et met en avant un Dieu tout mignon, tout amour du Nouveau Testament. Comme si le Christ était le meilleur coach spirituel pour le cœur. C'est un peu la version théologique du « tout est noir ou blanc ». Un Dieu qui punit versus un Dieu qui câline. Mais attention, cette vision n'a pas trop plu à l'Église, qui a préféré un peu plus de nuances entre les deux.
Le Dieu vengeur contre le Dieu tout mignon. Ivan.
Alors, le massionnisme est simplement un mouvement, une croyance qui est persuadée qu'il faut suivre la manière de vivre d'un grand marsupilami. Alors, pour pouvoir le faire, il y a plusieurs prérogatives qu'il faut remplir. Premièrement, et probablement la plus simple, avoir un habit en motif léopard. Veste, pull, pantalon, chaussures. Vous me direz, mais Ivan, connaît-il du strange léopard? Malheureusement, cet habit fort utile et agréable à porter n'est pas compatible avec la deuxième exigence pour devenir un martionniste. Il s'agit bien sûr de la taille de... Enfin, vous voyez bien, d'un marsupilami, quoi, dans la BD. Et la troisième et la dernière exigence, c'est que tous les problèmes doivent être résolus en utilisant son immense... Vous avez déjà lu, voilà, vous l'avez déjà lu. Mais vous me direz, Ivan, comment sais-tu tant de choses sur le massionnisme, car rares sont les personnes qui font partie de ce mouvement, et je vous arrête tout de suite. Non, je ne suis pas aussi prétentieux. Je n'en fais pas partie. Je peux porter mon strange léopard en toute quiétude. Je fais partie du mouvement gastioniste, et comme les admirateurs de Franquin, nous nous réunissons une fois par année. Alors, je sais que l'école est laïque, mais pour parler un peu de gastionniste, on est déjà pas mal dans le monde, il faut aussi remplir certaines exigences. La plus importante est bien évidemment que personne ne doit savoir quel est notre rôle dans l'institution où on travaille. Il en a d'autres, mais je m'arrête sur l'essentiel.
Mouvement en accord avec le mode de vie du marsupilami. Élodie.
Le martionnisme est un courant idéologique futuriste qui soutient que la colonisation de Mars, avec bien sûr l'aide d'innovateurs comme Elon Musk, représente un nouveau départ pour l'humanité. Selon cette vision, la Terre, avec ses conflits et ses problèmes, doit être laissée derrière, tandis que Mars offre un terrain vierge et une chance de bâtir une civilisation meilleure et donc plus avancée.
La colonisation de Mars, Thierry.
Vincent, un petit verre de Mâcon.
Ouais, volontiers.
Si tu apprécies ce Bourgogne, ça veut juste dire que tu apprécies le bon vin, ce qui en soi est déjà bien. En revanche, si tu deviens un spécialiste de ce vin, alors tu pratiques sans doute, sans le savoir, le martionnisme. En effet, ce terme vient de l'ancien nom de la ville de Mâcon, qui s'appelait Marcion, sous le règne de l'Empire romain. Les Romains étaient des bons vivants, leurs orgies en témoignent, mais ils étaient aussi des érudits. Ils étudièrent toutes les particularités du vin de Marcion au point de devenir des grands spécialistes de ce doux breuvage. Cette passion amena certains d'entre eux à fonder une secte quelque peu ésotérique, le marcionisme. Seules les personnes possédant la connaissance complète du vin de Marcion, connaissance transmise de père en fils, pouvaient entrer dans le cercle restreint des martionnistes. Donc le martionnisme est une secte qui célèbre le vin de la région de Mâcon ou Marcion au temps de l'Empire des Romains.
Spécialiste du vin de Marcion. Alors, monsieur Conus, martionnisme veut-il dire le dieu vengeur contre le dieu tout mignon, comme le dit Laurence? Mouvement en accord avec le mode de vie du marsupilami, comme le suggère Ivan? La colonisation de Mars, comme le dit Elodie? Ou pour terminer, une secte spécialiste du vin de Marcion, comme nous l'a expliqué Thierry?
Alors Thierry, un spécialiste du vin, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, la version de Ivan, à un moment donné, je me suis dit qu'elle allait venir au tenue léopard demain au bureau. Apparemment, c'est aussi les plutôt dans, c'est à se demander ce que certains font dans le boulot. C'est vrai qu'on a deux, trois questions à se poser parfois.
Pas Lutry, mi-balance. On veut des noms,
Pas Lutry. Évidemment, pas Lutry. Et puis, du coup, on va aller sur Mars.
C'était le dieu vengeur contre le dieu tout mignon et c'était Laurence qui avait la bonne réponse.
Et maintenant, nous allons écouter un sketch Lutricodeur 2025 interprété par Nicole Mottier et Vincent Timmerman. Écoutez-les attentivement.
Radio Bus. Destination chronique.
Prochain arrêt.
La chanson du jour.
Radio Bus.
Écoutez-les.
Oui, alors il faut qu'on se partage le micro, donc attention. Voilà. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre nouveau jeu Qui c'est qu'a dit qui c'est ? Ouais ! Comme son nom l'indique, ce jeu est simple. Nous avons invité une personnalité mystère que nous allons interroger afin que vous, monsieur le directeur, deviniez ou non son identité. Dès que vous pensez avoir un nom, vous appuyez sur le buzzer et vous hurlez la réponse à nos auditeurs. Vous êtes prêts ?
Oui.
Alors il est temps de nous tourner vers cette cage recouverte d'un ample rideau rouge. À l'intérieur, la personnalité mystère. Personnalité mystère, m'entendez-vous ?
Oui, bonjour.
Ah, ben, je sens que ça va être la joie. Donc, personnalité mystère. Tout d'abord, dites-moi, question facile pour se mettre en train. Êtes-vous un homme ou une femme ?
Selon la définition retenue par la Cour suprême du Royaume-Uni rendue publique le 16 avril 2025, je suis une femme.
Ah, facile, je vous avais dit. Ça élimine quand même environ la moitié de la population mondiale, moins deux, Nemo et Conchita Wurst. Mais bref, arrêtons tout net la polémique et passons à la question suivante. Personnalité mystère, êtes-vous suisse ?
Oui et non.
Oui et non. Comment ça, vous pouvez préciser ?
Oui, cela signifie que je suis suisse. Et non, cela signifie que je suis aussi pas suisse.
Mais ok. Mais alors, si vous n'êtes pas que suisse, vous êtes quoi aussi ?
J'ai également la nationalité britannique, comme les membres de la Cour suprême du Royaume...
Du Royaume-Uni, ça, on a compris. Bon, alors, tentons d'en savoir un petit peu plus pour nos auditeurs friands d'informations croustillantes. Vous avez grandi à Lausanne et vous avez 62 ans. Dites-nous, êtes-vous toujours active ? Que faites-vous dans la vie ?
Maintenant, je réponds à vos questions.
Que faites-vous comme, activité lucrative ou comme occupation principale ? Bref, qu'est-ce qui remplit vos journées ?
Je travaille pour les vieux avec ma copine Béatrice.
Ah, super, ça a l'air vraiment chouette. Et vous avez toujours fait ça ?
Non, avant je travaillais pour les jeunes.
Voilà, on avance. Donc vous êtes une puéricultrice à la retraite, quoi ?
Non, c'était des jeunes, mais quand même plus vieux.
Ok, bien sûr, j'ai dit ça comme ça. J'aurais aussi bien pu dire que vous étiez une dactylo guatémaltèque en transition professionnelle.
Non, je ne suis pas guatémaltèque. Je suis suisse et britannique.
Britannique, on le saura. Super. Bon, et à part ça, vous avez des hobbies, des passions ?
Oui.
Et donc, lesquelles ?
Il y a longtemps, je frappais la balle et je courais.
Vous couriez ?
Je courais, beaucoup et longtemps, tout droit. Sauf si ça tournait, là je tournais aussi. Mais ça, c'était il y a longtemps.
Mais comme c'est intéressant, hein ? Et c'est tout ?
J'ai fait des greffes aussi.
Ah, des greffes ? Vous voulez dire que vous êtes médecin, chirurgienne en fait ?
Non, j'ai travaillé dans des greffes. J'étais greffière au tribunal de district de la Broye. Vaudoise, la Broye. Mais ça, c'était aussi il y a longtemps.
D'accord. Donc tout ça, c'était il y a longtemps. Alors, mais aujourd'hui, que faites-vous aujourd'hui ?
Ben, j'ai essayé d'être à nouveau sur le devant de la scène, mais ça n'a pas marché.
Bon, je vois que notre directeur n'a toujours pas la bonne réponse. Alors, une dernière question. Êtes-vous une ancienne conseillère d'État en charge du département de la formation et de la jeunesse de 2002 à 2017 ?
Madame Anne-Catherine de Lyon ?
Mais oui, bravo ! C'est juste.
Alors, après cette excellente réponse, après donc cette excellente réponse, un nouvel petit intermède musical, voici Venu le temps de l'île aux enfants, la très célèbre chanson.
Radio Bus. Destination chronique.
Prochain arrêt.
La chanson du jour.
Aujourd'hui, les enfants de la classe de 1-2P de Corzy de Madame Marc Chara et Madame Beckett vont vous interpréter « Voici venu le temps », une chanson inspirée de « L'île aux enfants » d'Anne Germain.
Voici venu le temps, périr et des champs, à l'école de lutte, il y avait tous nos amis, c'est le pays joyeux, les enfants heureux, à l'école de lutte, c'est notre paradis.
Notre troisième jeu est l'exercice de style. Chaque Lutricodeur a revisité la petite histoire que nous avons composée en lien avec des événements ayant existé, qui ne sont donc pas une pure coïncidence et qui se sont déroulés il n'y a pas très longtemps dans notre établissement, peu après votre arrivée.
Alors, après avoir bien écouté ces histoires, nous vous poserons une question. Il s'agit pour vous d'être particulièrement attentif. Alors, voici l'histoire de base. Un jeudi, il neige à gros flocons. Les bus sont bloqués. Jean-Daniel est énervé. Il doit se rendre à une conférence des maîtres. Grâce à SharePoint, il avertit tout le monde que la conférence des maîtres est annulée. Vincent.
Alors oui, alors exercice de style à la Astérix et Obélix en hiver. Lutry, 2025 après Jésus-Christ. Tout le canton de Valdensis transpire sous un soleil magnifique, dardant de ses rayons les rives du Lacus Lemanus. Tout le canton ? Non. À Loustriacum, petit village d'irréductibles singes, il neige à gros flocons. Jean-Daniel Konix, le chef du village, ne décolère pas. Les charrettes à bœufs qui amènent habituellement les enfants du village jusqu'à la grande hutte des druides pédagogues sont toutes bloquées. Le problème est que justement aujourd'hui, les druides doivent se réunir dans la forêt des Lacroix-Nut pour leur traditionnelle réunion bachique, débridée et rocambolesque, sous la férule de leur chef suprême, le grand druide Benvenutix. Jean-Daniel Konix ne se décourage pas. Il interpelle un graveur de menhir itinérant et lui ordonne d'un ton péremptoire de graver sur celui-ci le message suivant. La réunion est annulée, cave canem. Il affiche ensuite son menhir sur le premier dolmen venu, un vrai point de rencontre pour tous les druides du village, puis s'en va boire une cervoise fraîche, l'esprit serein. Non loin de là, le petit Roger Fredericks, tout content de ne pas avoir l'école, car il a pris un congé joker pour fêter son anniversaire, reçoit un incroyable cadeau de sa maman, un petit chaton, qui s'en va aussitôt jouer dans la neige. Roger Fredericks s'écrie alors « Un chat, yes, c'te mère alors !»
Merci Vincent.
Nicole, concis.
C'est un jeudi. Sur la bourgade de Lutry, il neige à gros flocons. Les rues sont blanches et la circulation est bloquée. Les bus ne peuvent plus transporter les élèves. Le directeur est énervé. Il y a ce même jour une conférence des maîtres à la Croix. Comment débloquer la situation afin que les élèves puissent rentrer chez eux et les enseignants monter à la Croix pour assister à la conférence? Il met son pull en laine avant de sortir faire le point de la situation afin d'avoir bien chaud. Dehors, il regarde avec des yeux soucieux le ciel chargé de nuages sombres. La doyenne, pleine de compassion, le prend par le bras en essayant de plaisanter sur cette situation compliquée. En lui touchant le bras, elle ne peut s'empêcher de lui dire « C'est doux, il est neuf ce pull ?»« Non !» répond le directeur agacé. Mais grâce à SharePoint, il avertit tout le monde que la conférence est déplacée à une date ultérieure. Les profs sont heureux et profitent de cette aubaine pour rester tous ensemble en salle des maîtres afin de regarder le match de hockey Sierre-Viège en buvant des bières et en mangeant des chips.
Merci Nicole.
Alors maintenant, on va écouter Laurence et Catherine en mode nature.
Un jeudi de novembre, les feuilles ayant disparu des arbres et Noël et son excitation approchant à grands pas.
Subitement, il neige à gros flocons. Les arbres se recouvrent de neige et la lutrive disparaît sous un blanc manteau.
Mais c'est quoi la lutrive ?
La rivière de Lutry, tout le monde le sait.
Ah, le froid s'est installé. On commence à slipper.
Jean-Daniel est harcelé de messages contrariés. Certaines routes sont bloquées, les bus ne peuvent plus circuler.
Comment va-t-il pouvoir mener sa conférence des maîtres ?
Miracle, point de rencontre. Merci José, va rassurer tout le monde, la conférence est reportée.
Merci Laurence et Catherine pour cette version nature de l'histoire. Elodie et Mélissa, exercice de style à la manière slam.
Jeudi 21 novembre en panique. Gros flocons tombent, ambiance apocalyptique. Lutry sous la neige, silence dramatique. Ferrari en drift, c'est l'anarchie statique.
Trottoir bloqué, ça patine à la conversion. Helvétie galère, chaîne sans solution. Les profs dans le stress, mêlent en éruption. Collège de la Croix, mission d'expédition.
Panique dans l'air, comme un vent polaire. Les profs sont en mode, c'est la fin de l'univers. SharePoint s'allume, c'est l'heure du mystère. Conf des maîtres annulés, record planétaire.
Bus bloqué, les pneus crient leur douleur. La montée vers la Croix, frisson dans le cœur. Le directeur croule sous les notifications. Ses doigts tremblent, il rédige l'abdication.
Volte-face élégante, regard vers l'écran. Il invoque son allié, SharePoint le puissant. Mesdames, messieurs, pour des raisons climatiques, la conférence glisse vers l'oubli stratégique.
Merci Elodie et Mélissa pour ce magnifique slam.
Bravo.
Monsieur Cognus, dans trois de ces quatre histoires, il y a des noms d'enseignants de Lutry. Quelle est l'histoire qui ne contenait pas ?
J'ai noté tout le reste. Alors, je me rappelle en avoir entendu, en tout cas. Là, je dirais... Je dirais la dernière, ouais, tout hasard.
Ouais. Yeah. Bravo à vous, merci à tous pour ces magnifiques histoires qui nous ont fait rêver. Monsieur Cognus, maintenant c'est à vous. Avez-vous un défi à lancer au Lutricodeur ?
Alors, je vous propose de poser un défi sous forme de devinette, en vous donnant progressivement des indices, jusqu'à ce que vous trouviez un peu du même style que tout à l'heure. J'espère que ça ira plus vite pour vous. Et vous gagnez le défi si vous trouvez avec un maximum de 3 indices. Puis après, on continue jusqu'à ce que... Voilà. Premier indice. Je suis à Lutry et vis sur plusieurs sites.
L'école.
Ouais.
Ça pourrait. Ça pourrait.
Les concierges.
Ouais. Non, mais ça pourrait aussi. Deuxième indice, le vin fait partie de ma vie.
Les vignerons.
Les vignes.
Les vignes.
En même temps, à Lutry, c'est vrai que ça peut être beaucoup de choses. Ou beaucoup de gens, ça dépend.
La fête des vendanges.
Non, mais ça aurait pu. Sauf que... Oh non, c'est déjà prêt. Non, c'est... Sauf que effectivement, ça peut pas être la fête des vendanges parce que je ne suis ni dans le bourg, ni au bord du lac.
La folle semaine.
Ouh, juste, juste.
Oh, bravo, bravo Nicole. Nini, bravo.
Bravo d'avoir piégé les enseignants un peu. Vendredi, une nouvelle année scolaire s'achève et ce sont les vacances scolaires qui commencent. Qui dit vacances dit départ au soleil. Qu'allez-vous faire de vos vacances bien méritées?
Pardon, j'étais pas très attentif. Ouais.
Je répète, je relis. Vendredi, oui, une nouvelle année scolaire s'achève et ce sont les vacances scolaires qui commencent. Qui dit vacances dit départ au soleil. Qu'allez-vous faire de vos vacances bien méritées?
Alors, les début des vacances scolaires, en fait, bah, je vais commencer par travailler. Encore deux bonnes semaines. Et puis ensuite, je vais profiter de la montagne pour aller faire des belles balades en forêt, en altitude, au frais. Aussi participer à une soirée de Science sous les étoiles. Ensuite, je descendrai vers le sud quelques jours au Festival d'Avignon. Je finirai par profiter de la maison et de cette magnifique région de l'Avon.
Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à notre petite émission.
Merci
d'avoir
à vous.
Si gentiment joué le jeu et répondu à nos questions. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Je vous dis un immense merci. Je voulais juste faire un petit coup de pub avant, parce que la folle semaine, ça commence ce soir. Si jamais il y a encore de la place, jeudi. Voilà, on s'est fait.
Et jeudi, je vous vendrai à manger et à boire, donc vous pouvez venir.
Ah ben voilà pourquoi elle a su. Vendu, va.
Sinon, ben, merci infiniment. C'était un moment très, très, très agréable. Et puis, j'espère que les auditeurs ont aussi passé un bon moment.
Merci, merci beaucoup.
C'est déjà fini?
Presque.
On recommence?
Le temps des remerciements. Merci à Nicole Mottier, Mélissa Rocha, Elodie Sédou, Laurence Birbaum, Ivan Marsikic, Thierry Viguer et Vincent Zimmermann. Exceptionnel Lutricodeur. Merci également et surtout à Denis, Nathalie, Frédéric, Lionel et Stéphane d'avoir permis aux élèves de Lutry et à leurs enseignants de découvrir l'univers de la radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le DAB+ et sur le site du Radiobus en rediffusion.
Et merci à toi Catherine pour l'animation de cet après-midi. Un applause aussi pour Catherine.
Mais oui, bravo.
Mais alors attention, Radiobus est encore en direct demain de 8h à 16h, cette fois-ci depuis le collège du Grand Pont, et vendredi matin depuis la course à travers Lutry, dans la cour du collège du Grand Pont de 8h à 11h, avec, on l'espère, des journalistes sportifs en herbe. Excellent après-midi à toutes et à tous. On vous laisse avec les Lutricodeurs, encore une fois, Lutry s'éveille.
Les lutriens s'éveillent et les fêtards en rythme s'égayent. La fête des vendanges se déploie, les habitants sont tous en joie. Il est 8h, sa vie s'éveille. Sa vie s'éveille.
Les enseignants sont bien rasés, les enseignantes sont bien sapées. Les copies sont bien corrigées, les crayons sont affûtés. Il est 8h, Corzy s'éveille. Corzy s'éveille.
Dans la cour, les feuilles s'entassaient, la fête des vendanges prend place. Les costumes s'admirent dans la glace, le vin enivre, Lutry rêvasse. Il est 8h, les palmes s'éveillent. Les palmes s'éveillent.
Les banlieusards sont dans les gares et à Villette on tranche le leur. Lutry by night regagne l'écart, les boulangers font des batteurs. Il est 8h, la croix
s'éveille. La croix s'éveille.
Les certifs sont imprimés, les maîtresses sont déprimées. Les jeunes se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où JD va se coucher. Il est 8 heures, grand pont s'éveille. Il est 8 heures, les enseignants veillent.
Radio Bus.
Écoutez l'école.
Écoutez l'école.
Écoutez l'école.
I had a bad week, spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're